Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de notre débat hebdomadaire Patara sur Radio Ndekeluka. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la problématique de la gestion et du déploiement des forces armées centrafricaines FACA. La constitution du 30 mars 2016 et bien d'autres qui l'ont précédé consacrent une place de choix à l'armée nationale pour son rôle régalien dans la protection et la défense du territoire. Force est de constater qu'avant, pendant et après la crise, les forces armées centrafricaines peinent à assumer avec brio ce rôle. D'aucuns accusent la politisation de l'armée et souhaitent sa dépolitisation. Pourtant, c'est la politique qui tient l'armée et de qui elle reçoit les ordres. D'autres, par contre, évoquent l'incompatibilité entre la visée géostratégique et la volonté politique. Cet état de fait est d'autant renforcé par l'embargo qui pèse sur l'armée. Mais là encore, certains pays comme la Côte d'Ivoire, la RD Congo, la Libye et autres ont pu protéger et défendre leur territoire en dépit de l'embargo. Aujourd'hui, présente à Bukaranga, il n'en demeure pas moins que les forces négatives frappent Kundili, Bong, Limuna et Lura. Avec une présence remarquée à Obo, les FACA ont simplement une présence dissuasive, laquelle présence qui incite le Sud-Soudan à interpeller le gouvernement centrafricain de consolider cette présence. Conséquence, Obo est en proie à l'insécurité accrue avec des morts qui s'en suivent. Bambari, Bangassou, bref, le besoin est criant alors que l'armée peine à assurer la protection. En dépit de la formation assurée par les Russes et l'Union Européenne à travers l'EUTM, les officiers, sous-officiers, hommes de rang arborent leurs galons. Question, quelle place réserve-t-on à l'armée centrafricaine de nos jours? À quand la reconquête de son rôle régalien de protection et de défense du territoire? Pour en débattre, je reçois autour de la table M. Georges Tirevaka, député de Mongomba, président de la commission défense à l'Assemblée nationale. Honorable Georges Tirevaka, bonjour.
Bonjour Hippolyte.
Général de brigade Ludovic Ngaïfé, ancien chef d'état-major des armées. Général de brigade Ludovic Ngaïfé, bonjour.
Bonjour Hippolyte.
Et M. Teiro Kachabaz, secrétaire général, porte-parole du parti RPR. Monsieur Teiro Kachabaz, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs de Radio Ndekeluka.
Herman Nampona est notre technicien du jour. Je suis Hippolyte Marbois à l'animation de ce débat.
Patara, une émission politique de Radio Ndekeluka, réalisée par Hippolyte Marbois, tous les samedis à 17h05 en français et à 18h05 en Sango, avec une rediffusion tous les dimanches à 10h05 en français et la version Sango à 11h05.
Première question à vous, général de brigade Ludovic Ngaïfé. Aujourd'hui, le peuple réclame son armée à corps et à cri. Avez-vous le sentiment que la capacité opérationnelle de l'armée est aujourd'hui au top pour pouvoir sécuriser le territoire et garantir la stabilité?
Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais tout simplement faire un petit point en guise de préambule. Ouais. Dans vos propos liminaires, vous avez parlé de l'incompatibilité entre la visée géostratégique et la volonté politique. Ensuite, vous avez parlé de l'embargo. Alors, moi, je ne dirais pas que c'est une question d'incompatibilité géostratégique. Lorsqu'on parle d'incompatibilité géostratégique, c'est comme s'il n'y avait pas une chaîne de commandement. Et le politique d'un côté et l'armée de l'autre. Il y a effectivement une chaîne de commandement. Le chef suprême des armées est là. En principe, il devait être souvent assisté par le Conseil supérieur de la défense, qui est un organe très 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 important, qui en même temps lui rappelle la géopolitique et en même temps lui rappelle les stratégies à adopter pour orienter ses prises de décision. Malheureusement, ici chez nous, c'est un organe qui est là, qui existe, mais depuis l'accession au pouvoir du président de la République, on n'a jamais, au grand jamais, réuni le Conseil supérieur de la défense. Voilà en fait cette entité qui est chargée d'orienter les prises de décision militaires du chef de l'État. Alors, je pense qu'il n'est pas tard. Ces propos que je tiens ici, que les habitués de colportage des propos n'aillent pas encore agrémenter. J'en ai déjà discuté avec le chef de l'État, même si je suis en ce moment ancien chef d'état-major. On s'appelle de temps en temps pour certaines discussions et je lui ai rappelé le rôle
du Conseil supérieur
de la défense. Maintenant, lorsque vous me parlez de l'embargo, je crois qu'il faudrait qu'on arrête un peu avec cette histoire d'embargo. L'embargo est un principe. Et sa mise en application peut également faire l'objet de certaines ouvertures. Comme on nous fait des facilités et autres, on ne peut pas continuer à se focaliser sur la question de l'embargo pour dire qu'on ne peut pas remplir notre mission. Non. Voilà, donc c'est juste pour faire ces mises au point.
D'accord.
Maintenant, pour répondre à la question à proprement parler, l'armée, c'est tout à fait normal. C'est le seul outil de défense de notre pays. Nous avons trois forces. La première force, c'est la police. La deuxième force, c'est la gendarmerie. La troisième force, c'est l'armée, à savoir les FACA. Voilà. Et dans les textes qui réglementent la mise en place de notre armée, c'est une loi qui met en place l'armée centrafricaine. Après cette loi, nous avons ce qu'on appelle la politique nationale de sécurité. Et dans cette politique nationale de sécurité, il y a le plan national de défense qui accompagne. Et si nous respectons pas à pas tous ces textes dans leur application, je pense qu'on peut répondre valablement à cette sollicitation du peuple centrafricain. C'est tout à fait normal et c'est un plaisir pour le peuple de demander son armée.
Une manière de dire qu'aujourd'hui notre armée peut valablement sécuriser le territoire.
Bien sûr, notre armée peut sécuriser le territoire. Et vous savez, pour sécuriser un territoire, ce n'est pas uniquement l'armée. Ça, c'est le rôle premier de l'armée. C'est la première mission d'ailleurs, la protection du territoire centrafricain. La deuxième mission, c'est assurer la protection des personnes et de leurs biens. La troisième mission, participer à l'essor économique. Maintenant, si nous rentrons dans les détails, nous allons nous rendre compte pourquoi on ne fait que chanter notre armée. Il y a des réalités du terrain qui sont là.
Merci à vous, Général. On va revenir justement sur ces éléments qui nous permettront de comprendre réellement ces réalités de terrain. Honorable Georges-Thierry Bakat, aujourd'hui, au niveau du peuple que vous représentez, c'est une réclamation pratiquement au quotidien. Pourquoi les FACA ne sont pas déployés pour mettre terme à ces séries de violences ou encore à cette folie imposée par les forces négatives au niveau du Parlement? C'est vrai qu'on a suivi toutes les interpellations qui ont eu lieu, mais tout se passe comme si nous sommes encore au niveau du discours et les FACA ne sont pas encore prêt pour déployer, mais
opérationnel.
Opérationnel pour combattre les forces négatives.
Bon, Hippolyte, je pense bien, je soutiens le recadrage fait par Général Ludovic Ngaïfé. Et quand vous posez la question que le peuple réclame son armée, mais bon, ce n'est rien que normal. La définition même de l'État, l'État c'est quoi? C'est un territoire, c'est l'hymne et puis c'est l'armée. Et vous savez très bien que depuis plus de 10 ans, je pense bien l'état même de notre armée pose problème. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Nous avons déploré ce problème lorsque le président Bozizé était au pouvoir. La gestion parfois clanique ou régionaliste de l'armée ou la politisation de l'armée, nous l'avons. Donc les causes même sont lointaines. Donc aujourd'hui, nous avons vu à l'entrée de la Séléka où l'appareil militaire était liquéfié. Et il faut du temps. Mais pendant combien de temps? Quelle est la stratégie nette de redéployer? Parce que en partant des résolutions qui avaient un certain, je vais dire, blocage, mais au-delà, parce qu'il y avait des mécanismes de demander à ce que l'armée, déjà, ils ont imposé la formation, au niveau de la formation, l'8e est arrivé. Après, nous avons fait un constat qu'il y avait la présence des Russes à Berengo qui forment. Il y a des formations aussi, nos militaires
sont hors
du territoire, que ça soit au Rwanda, et à Guinée, si j'ai cette bonne souvenance. Exactement. Donc, on forme nos gars. Mais aujourd'hui, c'est quoi la stratégie pour projeter? Vous savez, l'armée, c'est comme le sport de haut niveau. Vous avez la formation, vous avez l'entraînement et vous avez le combat. Si vous vous entraînez et vous ne foutez rien, derrière, le maillage ne prend pas. Donc il faut à un moment donné, ça relève de la souveraineté nationale, d'imposer aux partenaires que ce que nous constatons effarement, que le peuple, vous voyez, des atrocités énormes à Kakabandoro, à Bambari,
à Koundili,
c'est récent. Mais si on essaie un peu de recenser tout ce que les groupes armés, récemment, quand j'ai intervenu, si ça tenait qu'à moi, mais je n'ai pas ce pouvoir de chef suprême des armées, si ça tenait qu'à moi, en partant de l'incident de Koundili, moi, je déclare la guerre à ces bandits. Ça nous permet d'avoir une orientation, d'autant plus que vous allez voir que certains groupes armés, que toujours, j'ai dit, c'est du terrorisme. Ça, c'est du terrorisme. Lorsqu'on brûle un village, lorsqu'on brûle des greniers, lorsqu'on cherche à éradiquer l'histoire d'un peuple, mais c'est quoi? Comment on doit traiter ces gens? Aujourd'hui, nous demandons à ce que l'armée retrouve sa capacité opérationnelle, que ce soit au niveau des forces de sécurité intérieure, ils soient déployés. Regardez même l'état même des gendarmeries ailleurs. Et en comptant l'armée, je ne sais pas si c'est une villégiature organisée au niveau des Nations Unies, mais là, nous devons cogner sur la table, taper, parce que tout juste à côté de chez nous, au Congo démocratique, vous avez vu, il y a la MINUSCO, mais ça n'empêche pas
à, au phare DSC de faire des opérations. Donc conjointement, on peut toutefois faire des choses. Voilà succinctement la préoccupation que vous avez posée concernant le peuple, parce que je représente le peuple ici.
Absolument.
Quand le peuple est en sécurité, je n'aurai rien à dire.
Merci à vous, honorable monsieur Tairo Kachabaz. Aujourd'hui, il se pose effectivement ce problème de la capacité opérationnelle de l'armée. Est-ce que vous partagez ce sentiment?
Merci beaucoup, Ipouz, pour la question que vous me posez. Vous savez, c'est une question qui est éminemment importante. Elle est importante pourquoi? Parce que la RC n'est pas un pays différent des autres pays que nous connaissons sur la planète Terre. Et avant nous, des penseurs, des géostratèges ont écrit sur cette question de la gestion de l'État, donc la gestion de l'armée. Des hommes comme Nicolas Machiavel ou bien comme Sun Tzu qui nous disent que quand on veut être un souverain, un prince, un roi, un chef, on a intérêt à maîtriser ce qu'on appelle l'art de la guerre. Et que le premier métier d'un chef d'État, c'est de maîtriser les arcanes de l'armée. Et donc quand la population réclame son armée, en fait, elle réclame quoi? Elle réclame son chef suprême des armées. C'est ça que réclame aujourd'hui la population. Quand nous avons un chef d'État qui nous dit que quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse quoi, je ne ferai pas la guerre. Je ne ferai pas la guerre, quelles que soient les conditions. C'est son discours qu'il a répété jusqu'à aujourd'hui, 3 ans plus tard, 50 000 personnes mortes après cela. Donc c'est déjà que vous comprenez qu'il y a un malaise. Et ce malaise, je remercie que dans votre introduction, vous ayez précisé que le militaire prévaut du politique. C'est le politique qui montre l'orientation. Quelle est l'orientation de la doctrine militaire centrafricaine? Quelle est la vision politique au niveau du chef de l'État? Le général Gaïfé, qui a quand même occupé les plus hautes fonctions dans l'armée, nous l'a rappelé, qu'il y a un défaut au niveau de la consultation, la convocation du Conseil national de la défense. Moi, je sais que tout chef d'État aujourd'hui ne peut pas, au vu des menaces qui existent dans ce monde, terrorisme international, grande criminalité transfrontalière, tout cela ne peut pas se permettre de ne pas convoquer. Je prends juste le cas du président Guendé, qui n'a fait que 2 semaines à la tête de l'État. Imaginez-vous qu'en 2 semaines, il a convoqué 4 fois le Conseil national de la défense. 4 fois en seulement 2 semaines. En 3 ans, le chef de l'État, Toadra, ne l'a pas convoqué une seule fois.
Je ne pense pas. Je ne pense pas.
Écoutez, il a convoqué le Conseil national de sécurité 4 fois.
On peut recadrer. Moi,
c'est pas le Conseil national de sécurité, mais c'est
le Conseil supérieur
de la défense.
Moi, général, vous savez, je peux en venir.
Soufflez que je termine, honorable, s'il vous plaît. Donc, je disais que c'est le politique, justement, qui oriente la doctrine militaire. Mais aujourd'hui, on se pose la question. Quelle est la vision politique du chef de l'État? Nous avons des menaces que nous avons envie de parler, le terrorisme, etc. Par rapport à ces menaces, qu'est-ce que nous voulons faire par rapport à notre armée? Lisez juste la loi de programmation des finances 2019-2023. On commence à 45 milliards en 2019 et on diminue progressivement à 40 milliards. Ça veut dire qu'on n'a pas d'ambition de pouvoir équiper, de pouvoir former, de pouvoir mettre notre armée à la page internationale. Ça, c'est déjà un point important. Et c'est dommage que le RPR n'ait pas eu la chance de pouvoir participer à ce débat national. Comme vous le savez, nos députés ont été débauchés par le pouvoir, à dessein. Donc, c'est pour vous dire que face...
En tout cas, pas l'honorable Vaxat.
Merci, grâce à Dieu. Mais je dis, c'est donc, par rapport à cette question justement de la vision militaire et des menaces qui sont aujourd'hui face à la RCA. Imaginez que la RCA est dans le ventre mou de l'Afrique. C'est la cellule grise. C'est-à-dire que nous sommes entourés de pays qui sont instables. Nous sommes entourés de pays dont les résidents sont majoritairement des militaires. Au Congo, en RDC, en Cameroun, au Soudan, encore
jusqu'à présent,
au Tchad. Et encore plus proche de nous, il y a l'Ouganda. Non, c'est pour vous dire que nous avons des hommes qui ont une vision politique et une vision militaire. Mais par rapport à ces menaces, nous disons quoi par rapport au RPR, le président Guendé? En disant qu'il y a 2 choses à analyser. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, tout le monde en parle, la guerre asymétrique, à laquelle tous les pays au monde sont confrontés. Quelle est la réponse que nous donnons aujourd'hui par rapport à cette guerre asymétrique? Il y a la guerre dissymétrique. Quelle est la réponse que nous donnons par rapport à cela? Par rapport à la guerre asymétrique, nous disons clairement, si nous voulons être efficaces, il y a des actions à poser à court et moyen terme et des actions à poser à long terme. À court terme, je dis, on n'a pas besoin d'avoir 8000 soldats qu'on doit envoyer sur l'état des opérations. On peut mettre en place, nous avons discuté au niveau du comité central du RPR, nous avons l'ambition de mettre en place aujourd'hui, de créer carrément un nouveau corps dans l'armée. En dehors des 3 corps qui existent, terre, air, marine, nous voulons créer un corps des forces spéciales. Non pas une unité, mais un corps des forces spéciales. Qui répond à quoi? Qui répond à des exigences de quoi? De rapidité, d'intervention, de mobilité. C'est ça qui est inexistable.
C'est pas trop un roman, je pense.
Imaginez-vous, aujourd'hui, nous avons un slogan politique, on dit l'armée de garnison. Mais l'armée de garnison, nous l'avons eu, l'armée de garnison où on passe à l'armée de projection. Mais nous avons eu une garnison de nos facas qui ont été projetées à Paoua, à 50 km. Imaginez-vous, c'est-à-dire que je suis à Bangui, quelque chose se passe entre Damara et Bangui, je suis incapable de déployer ces forces qui ont été projetées là-bas. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a un problème fondamental. Et face à cela, nous avons dit à plusieurs reprises, et je terminerai dessus, face à ces défis-là, qu'est-ce qu'il convient de faire ? Nous l'avons vu dans d'autres pays, en Afghanistan avec l'ISAF, en Irak avec la division dorée, mettre en place ce qu'on appelle des bases avancées qui peuvent nous permettre d'agir assez rapidement, de réduire le temps de réaction, de réagir et d'agir en même temps. De mettre en place des unités de réponse rapide. Ça, c'est les choses qu'on peut mettre en place. Mais malheureusement, comme on n'a pas de vision, comme l'a rappelé le général ici, il n'y a pas de conseil national de la défense qui est convoqué.
Donc, le conseil supérieur de la défense.
Donc ça veut dire le conseil que... en 25 ans, oui, honorable. En 25 ans, c'est sous la transition, c'est Mme Sama Panza qui a convoqué. En 25 ans d'existence, oui. Le conseil supérieur de la défense, je parle sous le contrôle de général Ngaïfé, c'est Mme Sama Panza. C'est pas les deux semaines, parce que les deux semaines que le président Nguindé était au CNT, on était des collègues. Donc je savais ce qui se passait. Je ne fais pas de propagande pour un parti politique. Je suis député de la nation. Parlons des failles, parlons de la technicité et faisons l'état de lieu global de notre force de défense ou de nos forces de sécurité. Après, je vois à peu près l'orientation. Si dans le cas, on parle d'un parti politique, j'aurais aimé qu'il y ait le contradictoire, que ceux qui peuvent défendre le MCU appartenant au président de la République soient là. Mais en tant que patriote, en tant que centrafricain, la technicité du débat intéressant. Non, c'est dans ce sens que j'aimerais
non,
pour que...
Non, bien sûr que nous restons dans cette ligne de réflexion, mais sachant que M. Steiro Kachabaz est là en tant que politique, il oui. porte aux paroles d'un parti politique. Hein,
mais c'est mieux de mettre un MCU voilà, aussi, parce que ils sont...
Nous avons toujours tenté, je ne peux pas encore revenir sur ce débat autour de la table, on a toujours invité, adressé des invitations, des correspondances, des appels téléphoniques, mais les gens désistent toujours, et là...
Comme d'habitude.
Voilà, le plateau...
Comme la sécurité, les
responsabilité. Alors, justement, il y a un chiffre qui a été donné, mon général, par M. Teru Kachabaz ici, il a évoqué, on n'a pas besoin aujourd'hui de 8000 hommes pour sécuriser le territoire centrafricain aujourd'hui. Nous savons qu'il y a presque 5 bataillons déjà formés, prêts pour le déploiement, mais malheureusement, le travail ne se fait toujours pas sur le terrain. Est-ce qu'on peut comprendre où se situe le problème ?
Bon, je rebondis un peu sur ce que M. Chabaz a dit. Dans ses propos, il y a une partie de vérité. Vous savez, pour toute action militaire, il y a un processus qu'il faut respecter. Cela me fait mal, c'est vrai, je parle ici en mon nom, mais faisant partie des forces armées centrafricaines. Oui. Tout ce qui touche l'armée me va droit au cœur. C'est pour ça que je suis venu ici et peut-être vous allez vous rendre compte que c'est une grande première. Parce qu'on va dire, oui, bien mais sûr. Ce général, il se prend pour qui ? Il va sur les ondes et autres. Ce qui est sûr, les commentaires...
Ça se passe ailleurs, moi.
Ailleurs,
général.
Voilà.
C'est une première
ici,
chez nous.
Ici, on est là.
Télé, on voilà. voit des généraux nous, voilà. faire des analyses.
Il faut situer les gens et dans le bon sens. C'est vrai qu'il a parlé des chiffres. Mais vous savez, les FACA n'agissent que sur les orientations politiques. C'est ce que nous appelons des directives politiques. Et les directives politiques du chef de l'État viennent après concertation avec le Conseil supérieur de la défense, qui lui donne les grandes lignes par rapport à ce que vous avez énoncé tout à l'heure, la géopolitique, face à cela, les stratégies d'approche. Et maintenant, on donne une directive politique. Je ne suis pas là pour entrer dans les débats politiques, mais un chef d'État reste un chef d'État. Il a son option politique. J'étais chef d'État-major, si vous vous souvenez bien, lors de ma passation de service, j'ai parlé de l'option politique et de l'option militaire. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là ici. Mon option militaire ne cadrait pas avec l'option politique du chef de l'État. J'ai dit, si tel en est le cas, je ne peux pas assurer ma mission. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas totalement les FACA qui ne peuvent pas assurer cette mission-là. Alors, l'option politique du chef de l'État, jusqu'à preuve du contraire, il privilégie le dialogue. Il privilégie le dialogue jusqu'à preuve du contraire. C'est un chef d'État. Arrivé à un moment, je pense qu'il va prendre un petit recul. Il se dit, c'est mon peuple qui est en train de mourir. Les options changent. Il peut changer. Et nous, les militaires, nous prendrons nos responsabilités. Ce n'est pas une question de nombre, quand le frère Chabaz dit, mais c'est une question de stratégie. Les stratégies, nous les avons. Les moyens, nous avons peu de moyens, certes. Mais il a parlé d'asymétrie. Nous sommes face à une forme de guérilla. Ces forces-là ne sont pas des forces organisées. On n'a pas besoin d'aligner 8000 hommes, comme il a si bien dit. Des petits éléments, et pour le rassurer, nous avons, et encore, après 58 ans de notre armée, voilà au moins une première fois, nous avons mis une organisation complète. Et cette organisation, c'est pour le futur. On peut le commencer maintenant, si les moyens de l'État le permettent. Et cette organisation, ce n'est pas seulement l'armée qu'on appelait terre-air-mer. Nous, on n'a pas la mer ici, mais c'est des formules qui sont... Mais nous avons une organisation, alors là, qui répondent aux normes des autres armées. Les forces spéciales, nous en avons. Nous avons des forces qui seront déployées dans l'arrière-pays, et nous avons des forces qu'on appelle des forces spécialisées. Et dans ces forces spécialisées, vous avez les forces spéciales. Vous avez les unités navales.
Amphibie.
Et c'est pour la première fois que nous avons vraiment cette organisation-là. Maintenant, il nous faut mettre en application. Les forces spéciales, je vais vous dire, quand j'étais chef d'état-major, j'en avais formé près de 200. Ils sont là, présentement là. Ils ont la même capacité d'action opérationnelle que les Rwandais que vous voyez ici. Ils ont été formés au Rwanda. Alors moi, je vous dis, juste un exemple. On demande à ces 150 ou 160 forces spéciales de réagir face à l'action menée dernièrement. Je crois qu'ils vont répondre vraiment vigoureusement. Maintenant, la vraie question, c'est la directive politique. Je ne suis pas contre que le chef de l'État ait toujours ce penchant
pour le dialogue.
Tendre la main. Mais je crois quand même que le jour où ça va arriver au point de non-retour, naturellement, chacun prendra ses responsabilités. Et le chef de l'État, pour ses directives politiques, après consultation du Conseil supérieur de la Défense nationale, il y a des grands officiers généraux qui ont occupé le secrétariat de ce conseil. Je peux citer le général Lapeau, qui est un universitaire. C'est quand même un grand cadre de l'armée. Le défunt général Lenangui. Voilà. On a encore des généraux qui sont là en ce moment. Celui qui fait peut-être office de ça, c'est le général Timangwa. Voilà, donc ce conseil, on peut le réunir, donner des orientations stratégiques et orienter les décisions du chef de l'État le moment venu. Pour le moment, ne continuez pas à dire les FACA. Continuez pas à dire les FACA. Nous attendons les directives politiques.
Les directives politiques sont attendues aujourd'hui. Cette option politique semble prendre le dessus sur l'option militaire. Selon le plan ou encore le système de gestion de nos dirigeants actuels, honorable Georges Thierry Vaca, est-ce que vous pensez que c'est cette situation-là qui explique le fait que les Vaca sont aujourd'hui déployés sans mission? Parce que, pour ne pas reprendre les termes de M. Chabas tout à l'heure, on a suivi, ils sont présents à Bawa, la population est attaquée à 50 km de là, mais ils ne sont pas intervenus pour neutraliser l'ennemi, comme on le dit.
Mais qui est l'ennemi, en fait? Il parlait de la guerre asymétrique. Nous connaissons à peu près, nous connaissons les profils, nous connaissons les leaders de ces groupes armés, ceux qui font ces exactions. Le général a parlé de l'option politique. Il y a l'option politique, il y a l'option militaire. Et chaque mission, on a une lettre de mission. Le contenu, c'est quoi? Si nous ne sommes pas associés à la rédaction, à l'élaboration de cette lettre de mission, mais ça sera une villégiature, j'ai dit. Et sachant que nos militaires étant déployés, que ce soit à Paoua, à Bombari, c'est toujours sous protectorat de la MINUSCA. Donc il y a une restriction par rapport à leur projection, à leur opération. Donc à ce niveau, je pense que le général a été très clair. On peut toutefois convoquer le CSD, Conseil supérieur de la Défense, et nous avons aussi dans le cadre de la PNS, Politique nationale de la sécurité, il y a aussi un organe qui existe où la société civile ou différentes entités peuvent siéger sous la présidence du président de la République, et le vice-président, c'est le Premier ministre. On peut toutefois définir une stratégie. Avons-nous la volonté d'éradiquer ces maux? Voilà.
La grande question.
Avons-nous la volonté?
Cette question, c'est à l'endroit des politiques qu'il faut le poser, politiques.
Oui, mais j'ai toujours dit, vous voyez, je n'ai pas souscrit, je n'ai pas adhéré à un parti politique. Je suis une personnalité indépendante, issue de la société civile, mais j'ai des proximités avec des structures politiques. Après, ce n'est rien qu'une seule voix, parfois, qui peut porter. Mais c'est quoi le but à atteindre? Si les gens veulent l'écouter, nous avons une chose en commun, c'est la République centrafricaine. C'est notre pays, c'est le peuple centrafricain. Donc nous ne pouvons pas toujours continuer à faire des communiqués pour constater, pour dénombrer. Il y a eu tel nombre de morts, il y a eu tel nombre de maisons brûlées. Non, ça suffit. Depuis 2013 que ces exactions ont commencé et le peuple ne vit plus dans l'arrière-pays. Ce n'est pas seulement Bangui.
D'accord.
Pensons, il n'y a pas l'éducation, il y a beaucoup de choses qui manquent à nos frères dans l'arrière-pays. Donc nous devons aller au-delà. C'est pour cela que le jour où j'ai intervenu, j'ai dit ouvertement, si ça tenait qu'à moi, c'est l'occasion de déclarer la guerre. J'avais dit, de déclarer la guerre. Après, je parle, c'est comme un avocat devant une cour. Ceux qui sont appelés à trancher, ils le savent.
En tout cas, le message est passé. Merci à vous, honorable Vakat. Monsieur Teru Kachabaz, aujourd'hui, hein, des FACA sont déployés pratiquement sans mission. Cela vaudra-t-il la peine de se vanter de former aujourd'hui 5 bataillons?
Monsieur Marbo, je ne sais pas comment répondre à cette question parce que vraiment, je suis un peu désespéré par ce régime que nous devons subir. Parce que je dis bien subir. Vous savez, on nous dit, bon, on a formé des FACA. Bon, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut former un ancien qui enseigne à l'université? Qu'on dise qu'on réactualise leurs connaissances, je veux bien, mais on n'a pas formé des FACA. Les FACA sont déjà formés, sont déjà aguerris. Ça, c'est le
premier. C'est le discours qu'on nous tient.
Oui, mais parce que je vous dis qu'actuellement, nous avons des slogans politiques qu'on vend à la population qui se fait tuer. Donc, c'est pour dire quoi? Déjà, on nous dit qu'on nous forme des FACA. Très bien, c'est bien de former des FACA, mais aujourd'hui, le monde a changé, les dangers ont changé. Ce dont nous avons besoin à deux niveaux. Nous avons besoin au niveau de nos troupes, de les former et de les aguerrir au niveau de ce qu'on appelle la discipline de feu. Combien de nos FACA aujourd'hui, là, qui ont été formés par ces mercenaires russes et par l'EUTM, ont une discipline de feu? Imaginez-vous, M. Marbois, à Bambari, lors de la fête des moissons, une attaque contre le gouvernement, débandade totale, c'est bien de les former. C'est pas pour critiquer le gouvernement, mais c'est une réalité. C'est pour vous dire que c'est bien de former les gens, c'est bien d'apprendre à faire des galipettes. Mais ce dont nous avons besoin, c'est que nos FACA puissent être sur le terrain des opérations, être opérationnels face à la discipline de feu. Premier point. Deuxième point, comme l'a dit le général, une armée c'est quoi? C'est aussi une chaîne de commandement. Et comme il y a des mutations stratégiques, opératiques dans le monde, il nous faut bien évidemment renforcer les capacités de nos officiers supérieurs comme officiers généraux. Renforcer leur capacité de commandement, mais aussi pouvoir leur faire acquérir des nouvelles techniques par rapport à ce qui se fait. Imaginez-vous, nous sommes un pays comme la RCA, l'honorable Vakat est ici, à Mongoba, il y a ce qu'on appelle les pygmées. Les pygmées ont une connaissance du terrain que les FACA pourraient exploiter à bon escient. Dans d'autres pays, ça se fait. C'est ce qu'on fait l'armée colombienne, c'est ce qu'on fait, comme je l'ai expliqué, l'ISAF en Afghanistan. Donc, c'est bien d'envoyer nos armées à l'abattoir, parce que je dis ça comme ça, à l'abattoir. Mais le plus important, à mon sens, aujourd'hui, c'est une formation adéquate et une vision politique. Et là, nous venons de comprendre une chose, et c'est très bien, que la population centrafricaine comprenne une bonne fois pour toutes que le problème aujourd'hui en RCA, ce ne sont pas les FACA, ce n'est pas l'embargo. Parce que je rappelle une chose quand même qui est importante, l'embargo pèse sur les FACA, ne pèse pas sur les gendarmes. Ne pèse pas sur les policiers. Sur les policiers.
Il y a des dérogations.
Oui. Et en plus, oui, comme le rappelle l'honorable, il y a des dérogations. Mais pourquoi est-ce que je dis cela? Je dis cela parce qu'on se rappelle du discours de l'ancien Premier ministre Simplice Mathieu Sarrandi devant la représentation nationale. Qu'est-ce qu'il disait par rapport à la formation de nos gendarmes? Oui, on a formé 500 gendarmes, etc. Mais nous sommes incapables de les fournir en armes. Ça veut dire que même s'il n'y avait pas l'embargo, on serait incapable de fournir ces FACA en armes. Donc, l'embargo est aujourd'hui utilisé comme un slogan politique pour expliquer la passivité de nos FACA. Alors qu'en vérité, les FACA sont actifs, mais c'est parce que la volonté politique n'est pas, la vision politique n'existe pas. C'est ça qui aujourd'hui qu'il faut relever.
Non, si vous me permettez, je vais vous recadrer un tout petit peu. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ce n'est pas une question de volonté politique, ce n'est pas à moi de déterminer la volonté politique de nos dirigeants.
Non, je n'ai pas dit
de vous. J'ai parlé de directive politique.
Directive et des options.
Et voilà, il y a des options, c'est un choix. Il est chef d'État, il est élu sur un programme. Il dit, moi, mon choix, c'est d'abord la négociation. C'est tout à fait normal. Bon, maintenant, les termes employés, genre abattoir et autres, non, ça n'honore pas notre armée. On ne les envoie pas à l'abattoir. Je vais vous expliquer le processus de ce que vous appelez déploiement des FACA en ce moment. Les FACA ne sont pas encore déployés. Je vais vous dire que le déploiement des FACA, ce sera dans des garnisons militaires implantées. Ça, c'est la troisième phase. Et lorsque, par exemple, on parle de l'embargo, moi, je préfère que ceux qui interviennent beaucoup plus dans ce domaine et qui parlent de l'embargo, qu'ils parlent des moyens qui manquent à l'État pour acheter les armes et les munitions. Nous avons des dérogations. Mais et ça, moi, personnellement, j'ai mené des négociations qui ont abouti et il nous restait seulement à payer le cachet pour avoir nos armes à nous, nos munitions à nous. Le véritable problème que nous, je ne sais pas si ça s'est décanté pour le moment, moi j'ai fait front à ça, c'est la donation qui est venue de la Russie et cette donation est toujours contrôlée.
Contrôle russe.
Sous contrôle. Lorsque le militaire n'a pas sa capacité de feu, comme vous le dites tout à l'heure, le chef militaire n'a pas sa réserve qu'on appelle deuxième échelon derrière lui. Vous avez cité l'exemple de où Bambari s'est lié à la Jima, mais moi je vais vous citer Bambari où le premier déploiement vers Bangassou s'est confronté à un choc au niveau de Bambari. Il nous a fallu attendre 3 semaines pour ravitailler les troupes qui ont eu ce contact avec l'ennemi. Bon, ce sont des réalités, mais maintenant il nous faut avoir notre autonomie en termes de
Souveraineté.
De souveraineté, voilà.
Mais justement, alors, sur cette question d'autonomie générale, tout à l'heure, honorable Pakat l'a dit, le fait de greffer les facas toujours au casque bleu fait l'objet de restrictions quand même de leur capacité opérationnelle.
Non. Je vais vous expliquer les trois phases du déploiement. La première phase du déploiement, c'est un appui que nous apportons à la MINUSCA. La MINUSCA a un déficit de communication. Vous mettez des Bangladeshis, vous mettez certaines troupes qui ne parlent ni sango ni français, les Marocains à Bangassou, beaucoup plus, quelque peu parlent français. Il fallait une mission d'appui auprès de cette force. En principe, cette mission, elle est temporaire. C'est pour amener la population à comprendre. Cela permet également à nos autorités de chercher les moyens qu'il faut pour booster un peu nos forces et avoir une certaine capacité. Malheureusement, vous savez, je ne suis pas dans le... Mais je comprends qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Les équipements militaires, les armes, les munitions, cela coûte cher. Mais dans la situation actuelle, je crois qu'un État doit vraiment se surpasser. Pour vraiment faire un effort dans ce sens. On doit se surpasser. On ne peut pas compter seulement sur les aides et encore des aides conditionnées qui nous lient les miens.
Mais voilà. Moi, général, l'aspect que je voulais porter aussi à votre connaissance, vous savez, dans le cadre des commissions mixtes, nous faisons partie de la commission de bassin du lac Tchad. Nous avons les F2M, les forces multinationales mixtes qui combattent Boko Haram. Et lorsqu'on regarde la puissance de feu de Boko Haram face aux troupes de Séléka ici, il n'y a pas photo, c'est le jour et la nuit. Quand je suis revenu d'une conférence à N'Djamena, j'ai porté à la connaissance de la ministre de la Défense de dire, mais je ne vois pas l'existence ne serait-ce que de quelques officiers centrafricains à l'état-major qui se trouve à N'Djamena. Alors que les gens réclament à ce qu'il y a eu irrigation du fleuve Oubangui vers le lac Tchad. Mais le CBLT ne se résume pas seulement au Niger, au Nigeria, au Cameroun, au Nord Mawa pour des opérations. On sait que nous sommes confrontés à un problème, que ce soit même le problème du cash, mais moyennant dans le cadre de la coopération, ces États doivent aussi nous soutenir.
Il y a des enveloppes qui sont prévues.
Il faudrait que ces
dans
États
le cadre,
nous soutiennent.
Dans le cadre
donc, après, c'est la diplomatie à ce niveau pour pousser. Ce problème, ça se règle. Ça, je vous le dis. J'ai discuté avec des officiers à l'extérieur. L'histoire de Séléka, là, si ceux qui tiennent le bâton décident aujourd'hui que ce problème soit réglé en 5 jours, ça va être réglé en 5 jours.
Alors, bon, c'est une manière de dire que c'est un faux discours. Quand on évoque le manque d'équipement militaire pour faire face à cette menace.
Non, mais on doit discuter.
Non,
on doit
je crois général, il faut parler de manque d'équipement. Je crois que tout ça découle des options. Voilà. L'option politique, en ce moment, joue la carte de la négociation. Mais le manque d'équipement militaire et autres, comme le frère là l'avait évoqué tout à l'heure, nous n'avons pas besoin de 10 000, de 100 000 hommes. Je me rappelle que l'incident ou bien l'accident qui a eu lieu à Bassam en Côte d'Ivoire. Vous connaissez le nombre des forces spéciales en Côte d'Ivoire ? Ils ne sont que 200. Ils ne sont que 200.
C'est le même nombre chez nous.
Ils ont fait mouche. C'est une question d'option. Maintenant, vous parlez du bassin du lac Tchad. C'est vrai, nous faisons partie. Nous faisons partie du bassin du lac Tchad. Mais je crois comprendre un peu nos autorités. Bon, affecter des officiers est OK pour avoir certaines approches sur le plan équipement et autres. C'est bien. Nous pouvons toucher un peu partout. Moi, j'ai effectué des missions en Afrique du Sud. J'ai été jusqu'à l'Union européenne. J'ai tenu une réunion avec les 27 chefs d'état-major de l'Union européenne. Il y a toutes ces facilités. Il y a ces facilités. Il y a des pays de l'Europe de l'Est qui, eux, étaient prêts à nous faire donner des options de vente à vil prix. Ça, on peut bien le faire. Maintenant, il faut que ça soit les moyens de l'État. Moi, je pèse bien mes mots. J'ai été vraiment foisonné et j'étais d'abord tout content au début quand on a parlé de l'appui en armement venant de la Russie. Mais cette condition de verrouiller le tout, quand vous dites que les chefs militaires pleuraient à Bambari et tout ça, un chef militaire, ce qui le galvanise, c'est d'abord un, l'état de ses hommes, les moyens qui sont à sa disposition. Il sait qu'il va faire 30 secondes de rafale, c'est fini, il n'a plus de réserve derrière lui. Alors donc je crois que ce sont des petits mots qu'il faut corriger tout simplement, mais rabâcher tout le temps les FACA, je vais vous dire pourquoi on n'est pas actif les questions de déploiement. La première phase, c'est ce qui est en train de se faire avec la MINUSCA. La deuxième phase, c'est la phase purement opérationnelle, que nous devons avoir nos sites à nous, et ça ce ne sont encore que des projections opérationnelles à partir d'un plan d'opération qu'on devait exécuter suivant l'accord du politique. Maintenant, la dernière phase qu'on continue à rabâcher, déploiement, ça c'est après l'exécution de la loi de programmation militaire où on aura les casernes, on aura des infrastructures et autres. C'est là où on parlera de déploiement, à décentraliser les forces. Voilà ces étapes. Jusqu'aujourd'hui, je peux vous assurer que nous ne sommes que à la phase appui auprès de la MINUSCA. Maintenant, c'est greffer une autre mission Je ne sais pas, est-ce que vraiment c'est une mission qui va se réaliser dans le cadre des accords de Khartoum ? Je
ne veux pas m'apesantir. Les unités mixtes.
Les unités mixtes. Là, je dis très clairement en tant qu'officier général, je me porte en faux vis-à-vis de cette unité mixte avec des rebelles.
Ça ne marchera jamais selon vous.
Ça ne rentre pas dans les missions militaires qui sont définies par la loi. Et ici, nous avons ce qu'on appelle le cadre d'emploi de nos forces. Et dans ce cadre d'emploi de nos forces, il y a des missions qui sont bien définies et déterminées. Je veux bien qu'on fasse des patrouilles. Et encore, si on me dit que c'est des patrouilles juste pour contrôler les couloirs de transhumance, ma foi, n'allons pas ramener notre armée vraiment à un état d'assujettissement. Alors moi, je pense qu'il faudrait qu'on recadre un peu les choses. Ce n'est pas tard. On peut réunir les officiers dans le cadre de ce Conseil supérieur de la défense, voir dans quelle mesure trouver, pourquoi pas renforcer les eaux et forêts. Ça, c'est leur mission, la protection de la faune et de la flore. Les éco-gardes, c'est des gens formés militairement. Ils sont très bons. Si ce n'est que des patrouilles pour protéger ou bien quoi les couloirs de transhumance, ma foi, je crois que nos politiques doivent revoir un peu leur copie. Ça, ce n'est que des positions d'un militaire qui respecte les fondamentaux de l'armée. Ce n'est pas faire de la politique.
Merci à vous. En général, M. Teru Kachapaz, aujourd'hui, il est question de la dépolitisation de l'armée nationale. Laissez au moins les techniciens, à travers peut-être le Conseil supérieur de la défense, donner les orientations qu'il faut pour pouvoir permettre à l'armée de remplir son rôle régalien. Aujourd'hui, avec la politique de nos dirigeants, vous pensez qu'on en arrivera un jour à cet état de choses, à cet état de fait?
C'est vrai que vous dénoncez la politisation de l'armée, mais en vérité, l'armée de facto est soumise à la politique. Donc l'armée ne peut pas se défaire de la politique. Non, sinon on appelle ça un groupe rebelle, un groupe de mercenaires, un groupe tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas l'armée. Donc l'armée a vocation à rester, être soumise aux politiques. Mais le problème aujourd'hui que nous rencontrons en RCA, ce n'est pas le fait que l'armée soit hyper politisée, mais c'est le fait que la politique soit dépolitisée. C'est ça le problème aujourd'hui que nous rencontrons. Et là, je suis très, très content de cette émission, parce que depuis longtemps, nous disions au RPR, le président Guédon premier, que quand on prend un pouvoir dans un temps de crise comme ça, on doit habiller le vêtement du chef suprême des armées. Avec euphémisme, le général parle d'options politiques, mais moi je parle de vision politique. Quelle est la vision politique que nous voulons? Nous voulons négocier à tout prix, à tout moment, même si on tue nos parents, ou bien est-ce que nous voulons avoir une vision politique claire? Je dis aujourd'hui, c'est ça le problème que nous rencontrons. Imaginez-vous que maintenant, écoutez le général Gaïfé, les FACA maintenant en sont réduits à être quoi? L'appui des MINUSCA? Et puis maintenant, l'appui des groupes armés? C'est ça qu'on attend de nos armées? Je ne crois pas. C'est très bien d'aider la MINUSCA, mais sincèrement, je crois que il me semble...
Non, vous savez, juste un petit mot, dans toutes les missions de Nations Unies, on ne peut pas mettre à l'écart les troupes locales.
Évidemment,
voilà. Quand je parle d'appui, c'est-à-dire que c'est un appui, si vous voulez, qui peut leur apporter un peu le contact facile avec la population et autres. Ça, c'est tout à fait normal.
Je suis absolument d'accord avec ce point-là.
Ça ne veut pas dire qu'ils sont aux ordres de la MINUSCA.
Non, je suis absolument d'accord avec ça, mais je dis simplement, réduire l'armée centrafricaine à cela, c'est cela qui me pose problème. Parce que vous avez bien dit qu'il y a, nous avons trois phases. Là, aujourd'hui, est-ce qu'au niveau opératif, nos FACA sont sur le terrain d'opération? Non. Sauf quand ils sont agressés par des rebelles. C'est ça que moi je dénonce aujourd'hui. C'est-à-dire que qu'il apporte un appui à la MINUSCA, ça ne pose pas de problème en soi. Mais la fonction fondamentale de nos FACA, c'est quand même la sécurisation du pays, c'est la sécurisation des biens. Et c'est ça aujourd'hui nous faisons défaut. Nous faisons défaut parce que jusqu'à aujourd'hui, ni le chef du gouvernement, ni le chef de l'État ont choisi de mettre en avant cette option dont on parle aujourd'hui, à savoir une vision guerrière face à un temps de crise, face à des menaces. Imaginez-vous qu'on parle des menaces comme changement climatique. Quand on parle des couloirs de transhumance, en réfléchissant aux origines de cela, ça remonte de quoi? C'est parce que dans la zone du Grand Lac, le lac Tchad, à cause du changement climatique, s'est réduit, ce qui fait que les pêcheurs, les agriculteurs de cette zone-là cherchent des pâturages, et ces pâturages se trouvent où? Ici, en RCA. Ça, ce sont des menaces que le chef de l'État, le gouvernement, doit se pencher dessus. Mais si on néglige ces options-là, pour pouvoir simplement mettre en avant l'idée de négocier, et je dis aujourd'hui ouvertement, parce que moi je suis un politique, je suis ni un technicien militaire, ni le président de la commission de la défense, je suis un homme politique, donc je peux dire clairement les choses. Je sais que cette option politique, cette vision politique a des visées électoralistes. Donc pour des visées électoralistes, on choisit de sacrifier l'outil militaire qui pourrait justement
s'exposer. C'est incohérent, c'est incohérent. Oui, visées électoralistes, mais ce ne sont pas les groupes armés qui vont voter. Lorsque un peuple est sécurisé,
c'est lorsqu'on ne tue pas. Il parle d'erreur politique.
Non, crois qu'il ne faut pas vraiment traiter le problème d'insécurité en mélangeant le côté politique et autres. Vous savez, la projection des FACA en ce moment respecte une certaine chronologie et respecte un plan d'opération établi en commun accord avec la MINUSCA pour la première partie. Maintenant, la partie opérationnelle, à proprement parler, c'est justement cette partie qui engage uniquement les FACA. Mmh. Parce que nous ne sommes pas concernés par l'article 7 ni l'article, je ne sais pas moi, 6 des Nations Unies. La partie opérationnelle, c'est l'option politique qui va déterminer est-ce qu'il faut engager en opération ou ne pas engager en opération. Maintenant, le chef de l'État, c'est le chef suprême des armées. Si lui juge qu'il ne peut pas traiter les problèmes, je veux dire courir sur deux fronts, il termine d'abord avec les négociations, ce qui est tout à fait normal. Ça, c'est également un plan de résolution de crise. On commence avec les négociations. Si les négociations n'aboutissent pas, ben, naturellement, on va passer à une autre option.
Que et nous donc, sommes dans ce cas en République centrafricaine aujourd'hui. Moi, les négociations ont montré leurs limites.
Monsieur Mavoie, il va falloir que. Un seul mot.
Bon,
vous pensez qu'on peut.
Attendons les missions d'évaluation. Évaluer. Et puis, bon, voilà, je crois que le chef de l'État va prendre ses.
Mon général.
Son bâton de premier chef militaire.
Je pense
la décision de ce que vous voulez.
Oui, je pense
que, ce que vous souhaitez plutôt.
Je pense que cela, nous pouvons le dire entre nous. Mais est-ce qu'on peut tenir ce discours-là à des populations de Lemouna? Est-ce qu'on peut tenir ce discours-là à des populations de Koundjid pour dire, écoutez, attendez d'abord que les procédures se fassent et peut-être en 2025 ou 2045 ou 5003, on va décider à envoyer nos FACA. Vous comprenez? C'est très bien qu'aujourd'hui, le général nous ait pu nous éclairer sur la façon dont les choses se font pour que les populations sachent vraiment ce qui se passe. Et là, ce discours-là, moi je le dis, sur le terrain, ça ne peut pas passer. Aucun centrafricain ne peut accepter aujourd'hui qu'on attende 5 ans, 6 ans ou bien X années qu'on envoie les FACA. Vous avez dit en début d'émission, les populations centrafricaines réclament leur armée. Ils réclament leur armée pourquoi? Pourquoi?
Pour avoir la paix.
Voilà.
Merci, monsieur honorable Thierry Vakat. Aujourd'hui, on est habitué à un leitmotiv. On nous dit que l'armée est une grande muette, elle ne parle jamais. Et toutes nos autorités adhèrent à ce vocable-là. Les autorités ne communiquent jamais sur notre armée au prétexte que l'armée est la grande muette. Récemment, à l'Assemblée nationale, même quand les députés interpellaient le Premier ministre, on a nettement senti les bégaiements du Premier ministre pour dire que voilà, c'est une question de l'armée, c'est le secret défense, on ne parle jamais sur ce truc-là. Ce discours-là, est-ce que ça tient encore de nos jours?
Non, nous n'avons pas créé la roue ni l'eau chaude. Ça, c'est des expressions même datant d'antiquité. On a dit l'armée, c'est la grande muette. Mais ceci étant, je vais vous expliquer un peu comment les choses fonctionnent au niveau de la représentation nationale. J'ai eu à auditionner à maintes reprises dans ma commission le général. Quand il s'agit des questions très 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 spécifique, on peut le faire en commission sans que ça se passe sur les ondes. Mmh. Et il y a des aspects, il y a un fait qui est là, on peut toutefois communiquer. Mais je verrais mal le Premier ministre venir avec un papier pour dire voilà telle stratégie que nous avons retenue pour combattre. Ça, il ne peut pas le dire. En disant ça, il expose ceux qui vont partir pour cette mission. Donc il y a des aspects aussi, on ne peut pas en parler. Mais lorsqu'il y a un problème d'ordre général qui touche l'intégrité, la sécurité de nos frères centrafricains, nous devons en parler. Ça, ce n'est rien que logique. Donc, même en France, vous allez voir, le chef d'état-major sortant, lorsque le président Macron était venu, il a dit, vous faites la restriction des moyens pour les opérations, mais je me casse. Il est parti. Donc, quand les choses ne vont pas, on peut le dire, mais en étant officier général, officier supérieur, on peut s'exprimer. Il ne faut pas balkaniser l'armée pour dire que non, l'armée est la grande muette. Non. Quand il y a des choses qui touchent la souveraineté de notre État, j'encourage certains. Mais quand c'est des questions d'opération, ça doit être tenu secret.
Alors, oui, sur la même question au général, c'est quoi ce mythe-là autour de cette notion, ce concept de grande muette? Vous pensez que vraiment c'est bien compris, c'est bien interprété, bien appliqué par nos autorités aujourd'hui? Voilà, toute la moindre question qui touche à l'armée, personne ne veut se prononcer là-dessus.
Non, j'abonde dans le même sens que l'honorable Vakat. Lorsqu'on parle de la grande muette, moi je ne me permettrai pas ici autour de cette table de rentrer dans les détails opérationnels. Bon, bien que je ne suis plus dans le rouage opérationnel, mais en tant que responsable militaire, je ne vous dirai rien là-dessus. C'est juste des considérations d'ordre général. La population de notre pays, ils sont censés être au courant de ce qui se passe autour de leurs institutions. On ne peut pas exclure l'armée. Ça, c'est une manière d'exclure l'armée, de ne pas expliquer, ne fût-ce que son fonctionnement, quels sont ses problèmes à la population. On doit communiquer là-dessus. C'est de la communication.
Mais il y a même des actions civilo-militaires.
Qui sont menées. C'est de la communication. Okay. Il faut communiquer autour des choses. Là, aujourd'hui, sur cette antenne, j'ai dit clairement, ce qui fait restreindre un peu le chef militaire en ce moment sur le terrain, c'est quand on lui dit c'est une donation, il s'exulte. Mmh. Et subitement, il y a des restrictions par rapport à ça. J'ai été complètement sidéré face à ça. Et en tant que chef d'état-major, ben, j'ai réagi vigoureusement. Je ne peux pas me le permettre. C'est pourquoi il faudrait que nous ayons nos moyens, une certaine autonomie à nous-mêmes pour remplir notre mission. Ça, c'est de la communication qui va à l'endroit de qui doit réagir par rapport à ça. Mais quand on parle de secret défense, on n'a pas mené une opération dans le cadre, ou bien alors on a un dispositif dissuasif. Voilà, c'est autour de ça qu'on parle de secret défense, de secret. Nous, on n'a aucun dispositif dissuasif. Ce qui est dissuasif, c'est la projection que nous faisons en ce moment. C'est vrai que ce n'est pas encore opérationnel, comme j'ai dit, en appui avec la MINUSCA. Voilà, ça, c'est un peu dissuasif. On peut parler, mais le fond même...
Même les opérations secrètes, on ne mène pas pour déclassifier.
Exactement, donc je crois qu'il ne faudrait pas... Je ne parlerai pas de fuite en avant. C'est une manière de parler qu'on doit quand même spécifier un tout petit peu pour faire comprendre au public que bon, l'armée, c'est ce grand, je ne sais pas moi, d'aucuns pensent que bon, on parle de l'armée, c'est insulter quelqu'un ou bien c'est provoquer une réaction. C'est non, 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 je ne pense pas. Hein, je ne pense pas. Je crois qu'il faut libérer un peu la parole autour de cette institution pour que les gens comprennent un tout petit peu.
Oui, je pense que c'est nécessaire au jour d'aujourd'hui, mais comme nous sommes en train de terminer ce débat, je reste avec vous. Général, vous avez parlé qu'il faut avoir nos moyens. C'est une manière de dire que l'État centrafricain doit sortir de l'argent, acheter des moyens létaux, des armes, tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre à disposition de
absolument, de absolument. L'honorable est là. L'autre a parlé de la loi de programmation militaire. Mais lorsqu'on vote une loi de programmation militaire, c'est bouclé le 31 décembre. Le 1er janvier, ça rentre en exécution systématique dans notre budget exécutoire actuellement. Là, en principe, selon les normes d'une loi de programmation militaire, on devait avoir près de 45 milliards pour les équipements, pour tout ce qui va. Et justement, c'est ça.
Bon, vous savez, mon général,
c'est ça.
Il faut regarder aussi l'assiette fiscale centrafricaine. Au moment que la loi de programmation militaire est arrivée à l'Assemblée nationale, vous savez que j'ai connu des moments difficiles, que j'aimerais pas revenir dessus. Mais avec ce que nous avons fait avant, les différents projets de loi de finances que nous avons eu à étudier en commission, mais on ne peut pas, quand vous voyez l'occupation de la rébellion occupe presque 85% de l'étendue. C'est-à-dire les collectes d'impôts au niveau de la Waka, la Basse-Coto, vers Kakabandoro, tout ça, ça ne tombe pas dans la caisse de l'État. On attend toujours des donations, des aides de l'extérieur. Et des aides sont conditionnées. Donc, à ce niveau, on ne peut pas vraiment faire une bonne planification en général. L'État doit retrouver le territoire. L'État doit collecter ses impôts. Les groupes armés exploitent l'or, le diamant, le café, le coton, même dans l'arrière-pays. La taxe n'est pas collectée par la douane. Donc tout ça, ça handicape l'État de réaliser ses rêves. Les rêves, c'est quoi de l'État? Mais c'est de sécuriser son peuple, c'est de le sécuriser. La sécurité, elle est transversale. D'aller et venir, de manger, de circuler librement. Vous voyez, tout ça, en ce moment, nous n'en avons pas. Et ça pose problème.
Oui, moi je ne vous coupe pas, honorable. Vous savez, il faudrait que nous partions sur du concret. J'étais à l'état-major quand j'ai eu l'ébauche de cette loi de programmation militaire. Et encore, on a divisé les chiffres par 4 pour en arriver à 45 milliards l'an.
Mais ça faisait 1000 et quelques milliards.
Voilà. Ça faisait 1000 et quelques milliards.
Alors que vous voyez même notre... Voilà. La loi de finances même, le budget de l'État centrafricain, quand ça se résume à peine à 300 milliards.
Quand j'étais à l'État-major, j'ai rejeté dès la première lecture. Dernièrement, quand on a sorti la loi de programmation militaire, on était pratiquement au quart. Je me suis permis, j'échange avec le chef de l'État. Ça, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Je suis un chef militaire, j'ai été chef d'état-major quand même pendant 2 ans. J'échange avec lui sur certains aspects des choses. Je n'ai pas hésité un seul instant à attirer son attention de ce que vous venez de dire, l'assiette des recettes de l'État. Une loi de programmation militaire, ça tient compte de l'assiette des recettes de l'État. Ça ne met pas en exergue les aides extérieures.
Impossible.
Le budget de l'État est à 230 quelques milliards. Quand on nous a parlé de 45 milliards, j'ai dit ouf. Et j'ai envoyé un SMS pour dire c'est pas réalisable. Il faudrait que nous restions dans une fourchette jouable d'abord avec nos propres moyens avant de compter sur ce qui viendra de l'extérieur. J'ai échangé avec le chef de l'État là-dessus. Alors je crois que ça dit que dans les principes, ce que j'ai dit, dans les principes, puisque ça a été voté par vous les élus du peuple, promulgué déjà, dans les principes, on devait avoir 45 milliards disponibles pour avoir des équipements, construire les casernes, entraîner les hommes, et voilà. Mais moi, je dis que ce n'est pas réalisable. Ce n'est pas réalisable.
C'est ambitieux, hein, selon vous.
C'est tellement ambitieux. Tout simplement, je ne sais pas comment est-ce que les gens des finances ont laissé passer cela comme ça. Parce que quand on parle de loi de programmation militaire, c'est sur les ressources propres. Même dans les grandes nations, ça tourne autour de 2%. La France même est restée à 1,5% du
budget. Vous conviendrez avec moi que depuis la nuit des temps, même l'élaboration des lois de finances, au niveau sectoriel, en fait, quand on prend un département, celui ou ceux que je connais, la défense et la sécurité publique, vous voyez, c'est la consolidation des expressions de besoins sectorielles. Vous trouverez à un certain niveau et on consolide, ça devient le budget de la défense, le budget de la sécurité. Et lorsqu'on pose des questions à des techniciens, parce que premier bureau, deuxième bureau, l'intendance, est-ce que vous avez été associé à l'élaboration de ce budget ? D'autres, non.
Les gens n'ont pas été associés.
N'ont pas été associés. Voilà. C'est pas la représentation nationale d'imaginer quelque chose ou de créer des taxes et d'injecter dans ces lignes. Et
là, mais moi personnellement, je suis un peu désolé de l'approche qu'on donne à des questions militaires ces derniers temps quand même. Je suis vraiment désolé. Je crois que le département doit faire un sérieux recadrage et compter sur les expertises des uns et des autres pour pouvoir élaborer. On n'élabore pas une loi de programmation militaire pour faire de, je sais pas moi, des commentaires sur Radio Centrafrique. Voilà, on a déjà notre loi de programmation militaire. Mais ça, c'est une leurre. Alors, on met le chef de l'État devant un fait accompli sans avoir consulté au préalable les techniciens.
Les techniciens. Voilà. Ça pose problème. Merci, merci à vous, général. Merci, honorable. Nous terminons avec vous, hein, monsieur Teruka Chapoz, aujourd'hui. Hein, c'est vrai, nous l'avons dit au début de cette émission, le peuple réclame son armée. À quand une armée centrafricaine véritablement au service du peuple ? Est-ce que vous croyez à cela un jour ?
Évidemment, si je ne croyais pas, je ne ferais pas la politique. Justement, faire la politique, c'est justement mettre en avant ces visions-là. On parlait tout à l'heure de la loi programmation militaire. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir une réflexion également sur la question de la mobilisation des ressources de l'État. La mobilisation de ressources d'État est réduite aujourd'hui à ces quelques recettes que nous percevons justement de l'espace réduit que contrôle le pouvoir actuellement. Je prends l'exemple d'un pays comme le Burundi ou le Rwanda. Le Rwanda, c'est 27 000 km². Donc ça veut dire que les recettes tirées de l'activité du Rwanda, c'est, en termes de superficie, c'est supérieur même à l'espace contrôlé par l'État actuellement. Il y a des moyens, des canaux qui existent, hein, au-delà de la question des recettes de l'État. Si vous prenez les plus grandes nations de cette terre-là, en termes de mobilisation des ressources financières, la majorité de leurs ressources financières, c'est ils se financent sur le marché. Et c'est à nous aussi d'être intelligents, c'est aussi à nous d'être suffisamment innovants pour diversifier la mobilisation de nos ressources financières pour pouvoir exécuter des lois de programmation militaire de ce type-là. Or, nous nous contentons seulement de prendre des recettes fiscales de 14-15 grandes entreprises qui travaillent actuellement à Bangui. Donc, il faudrait que le personnel politique soit beaucoup plus créatif, soit beaucoup plus innovant quant à la recherche de la mobilisation. Imaginez-vous, en 2016, nous avons été à la table ronde de Bruxelles, on nous avait promis 2000 milliards, et maintenant nous apprenons, après le discours général du chef du gouvernement, qu'effectivement, à peu près seulement 10% des 2000 milliards qu'on aurait pu aller chercher avec les dents, on les a ratés. Alors que si nous avons fait ce travail-là, hein, on aurait pu compléter et puis aider justement notre armée. Donc c'est pour dire qu'il y a bien évidemment les ressources actuelles que nous possédons, mais il y a aussi la possibilité qui existe pour l'homme politique de pouvoir aller chercher là où nous ne sommes pas encore allés. Il y a des pays comme le Sénégal, comme même le Mali, le Burkina, qui sont allés chercher avec le forceps.
Ils en ont eu, ils ont consolidé leur armée.
Voilà, donc ça veut dire qu'il y a aussi une défaillance au niveau de notre gouvernement qui a des peines à mobiliser, qui a des peines à coordonner les actions avec des gens qui peuvent mobiliser des ressources financières pour l'État.
Merci à vous, M. Teruka Chapoz. Merci à vous, M. Thierry Georges Vakat. Merci à vous, Général Ludovic Ngaïfé. Fin de ce débat Patara sur Radio Dekeluka, qui, je le rappelle, a été consacré à la problématique du déploiement des forces armées centrafricaines dans ce contexte de crise sécuritaire. Merci à tous nos auditeurs toujours fidèles à l'écoute. Herman Nambona, à la technique Bolide Marbo, à l'animation de ce débat, vous donne rendez-vous samedi prochain pour une autre thématique.